RFI.
RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera avec les réactions nombreuses en Guinée. Après la grâce et la libération de Moussa Dadis Camara, réactions partagées, incompréhension et indignation d'un côté, félicitations de l'autre. On fera le point à Conakry dès le début de l'édition. Un bilan en RDC ensuite, celui de la compagnie aurifère lancée par le président Tshisekedi en 2023, la DRC Gold Trading SA, aujourd'hui à l'arrêt dans un sud Kivu en guerre. Des mouvements très remarqués, très observés en cette année électorale au Cameroun, des récentes nominations au sein du comité central du RDPC, le parti de Paul Biya. Au sommaire également cette polémique au Kenya autour d'une chanson qui réclame la démission de William Ruto. Un film pour notre dossier du jour, le documentaire The Tongue Turns to the Hashing Tooth, signé du néerlandais Michel van Oosterhout. Il donne à voir la condition des caricaturistes sous le régime d'Amin Dada dans les années 70 en Ouganda. Et puis le monde du foot, les jeunes qui se préparent à la CAN U20 qui débutera le 27 avril en Égypte et non pas en Côte d'Ivoire après son désistement. Et cela fait du changement pour les sélections, on le verra. C'est donc moins d'un an après sa condamnation pour crime contre l'humanité qu'il a retrouvé l'air libre en Guinée. Moussa Dadis Camara est sorti de prison vendredi soir, immédiatement après la grâce accordée par le général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens ont pu voir les images de sa sortie de prison hier soir à la télévision nationale. L'ex-chef de junte qui avait ordonné en 2009 le massacre d'au moins 156 opposants dans un stade de Conakry. Sa libération fait naturellement réagir. Aujourd'hui, les victimes, leurs familles qui s'étaient battues pendant des années pour obtenir justice sont sous le choc. Mais dans l'entourage de Moussa Dadis Camara, évidemment, la musique est tout autre. On se félicite, Mouktarba.
Un samedi de joie dans la famille Camara à Conakry. Émotion également à Zérékoré, sa ville natale. Amadou Bari de l'Union citoyenne pour l'émergence de la Guinée, une organisation de la société civile proche des autorités, salue ce qu'il appelle un geste humanitaire.
Ce geste fort du président général Mamadi Doumbouya est un acte salutaire pour nous les acteurs de la société civile guinéenne, surtout qui se bat pour la réconciliation et l'unification du peuple de Guinée.
Ce magistrat qui a souhaité rester anonyme rappelle que Dadis Camara a été gracié, mais sa condamnation tient toujours tant qu'une amnistie n'est pas votée.
Qu'une personne condamnée a commis un crime grave, la loi donne le droit au président de la République de prendre une mesure de grâce pour dispenser de cette personne-là de l'exécution de la peine. Faut-il rappeler, la peine reste enregistrée dans son casier judiciaire et produit tous les effets juridiques. Seulement, la personne ne reste pas en prison pour purger la peine.
Pour Rafi Ousso, le leader du parti d'opposition PRP, le cas d'Adis Camara doit servir de leçon.
Je souhaite fortement que ça lui a servi d'exemple et qu'il sera un conseil du général Mamadi Doumbouya dans le sens de respecter ses engagements et l'achat de la transition.
Au sein de l'opposition, certains s'interrogent sur les motivations des autorités et leur volonté de s'attirer la sympathie de la Guinée forestière. La libération du capitaine Moussa Dadis Camara suscite également de l'inquiétude dans les rangs des victimes du 28 septembre. Nombre d'entre elles avaient témoigné à visage découvert. Mouktarba Conakry, RFI.
Une conséquence directe de la guerre dans l'est de la RDC. On vous a déjà parlé sur RFI des minerais tombés sous le contrôle de l'AFCM-23. Eh bien, nouvelle illustration ce matin du manque à gagner pour l'État congolais avec les activités de la société aurifère DRC Gold Trading SA, lancée en 2023 par le président Tshisekedi en partenariat avec les Émirats Arabes Unis. La compagnie est aujourd'hui littéralement à l'arrêt dans le sud Kivu où une partie du territoire a échappé au contrôle des autorités. Les précisions de Passion Ligodi.
Cette société devait permettre à la RDC de reprendre le contrôle sur l'or artisanal, en particulier dans l'est du pays, selon le gouvernement. Les premiers résultats ont été jugés encourageants. Dans la province du Sud Kivu, avant l'arrivée de la société, environ 25 kilos d'or artisanal étaient exportés officiellement chaque année. Un an plus tard, 5,6 tonnes avaient été exportées, générant environ 500 000 dollars de recettes selon des documents et sources consultées par RFI. Pour cette année, l'objectif était des 12 tonnes. Mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Selon ses dirigeants, DRC Gold Trading ne sera plus en mesure de récupérer les 10 tonnes d'or attendues cette année dans le Sud Kivu en raison de l'occupation d'une partie de la province par l'AFC M23. Pourtant, l'exploitation artisanale continue, affirme plusieurs sources, mais les revenus ne transitent plus par les circuits officiels. Comment cette filière est-elle gérée actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion? C'est l'une des questions que devaient poser les experts des Nations Unies cette semaine lors d'une mission sur place. Mais cette mission a été annulée par l'AFC M23.
Passion Ligodi. Les premiers meetings, les premiers rendez-vous hier au Gabon où la campagne électorale a officiellement débuté en amont de la présidentielle qui refermera la transition. Scrutin prévu le 12 avril. 8 candidats en lice pour de nombreuses candidatures qui ont été rejetées, rappelons-le. Année électorale au Cameroun également. La présidentielle y est notamment prévue en octobre. Et en attendant, des mouvements remarqués au sein du RDPC, le parti du président Biya, avec des nominations au comité central, l'instance décisionnelle de la formation. Alors à l'approche de l'échéance électorale, à l'heure où le débat sur la succession du chef de l'État âgé de 92 ans gagne du terrain dans l'espace public, tout le monde scrute de près ces changements au sein du RDPC. Et pour le politologue Michel Oyan, professeur d'université, il y a en effet des points intéressants à soulever.
Il y a quand même certains grands absents qui brillent par leur non-présence sur cette liste. On peut par exemple remarquer qu'il n'y a pas le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il n'y a pas aussi le ministre directeur du cabinet civil. Alors, est-ce que l'absence de ces noms signifie que ces personnes sont d'une certaine manière désavouées par le président de la République? Je pense qu'il faut se garder de toute analyse tendancieuse qui consisterait à voir les choses ainsi. Parce que si vous voulez, le système politique à Moulin est davantage un système bureaucratique, où la présence à une instance décisionnelle d'un parti politique ne signifie pas que vous avez tant que ça un poids politique. Il faut se rappeler de la situation du président Biya lui-même lorsqu'il devenait président de la République. Il n'était pas aussi investi que cela dans l'Union nationale camerounaise, l'UNC, qui était alors le parti unique. Donc, les personnalités qui n'ont pas été associées lors des dernières nominations ne doivent pas être considérées comme étant bannies de la scène politique ou même étant ignorées d'une éventuelle succession.
L'analyse au Cameroun du politologue Michel Oyane. Un slogan et une chanson qui heurtent directement le président kényan. Un appel à la démission porté par les paroles « Ruto must go »,« Ruto doit partir » en français. Chanson née lors des manifestations dirigées l'an passé contre le gouvernement, mais elle continue à courir dans la société kényane comme un bruit de fond. Le week-end dernier, notamment lors d'un match de football dans un stade de Nairobi. Or, ce serait un risque d'anarchie, selon le chef d'état-major des armées qui a mis en garde cette semaine. Un avertissement qui n'est pas passé inaperçu non plus. Récit Alban Tiroir.
Intimider les Kényans, c'est le titre du quotidien The Standard qui rapporte les propos du chef d'état-major des armées. Des propos qui ont provoqué la colère des Kényans sur les réseaux sociaux. Le hashtag Ruto Must Go a été propulsé en tendance sur X demandant la démission du président. Le chef d'état-major des armées avait souligné qu'un tel départ devrait se faire conformément à la Constitution. Il a appelé les Kényans à exercer leurs droits en respectant certaines limites afin, je cite, de ne pas aller jusqu'à déchirer le pays. La Commission kényane des droits humains dénonce une attaque flagrante contre les droits constitutionnels, la liberté d'expression notamment. L'opposante Martha Karua, elle, juge perturbant de voir le chef d'état-major des armées commenter un débat politique. Selon elle, les appels Ruto Must Go sont l'expression de l'opinion de la population et doivent être pris en compte. Depuis les manifestations de l'an dernier, le slogan est devenu courant dans beaucoup de rassemblements, même sportifs et culturels. L'analyste politique Dismas Mokwa y voit une illustration du ressentiment général qui prouve la population à l'égard de la classe politique. Une colère face à la crise économique qui perdure et un sentiment de promesse non tenue. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Une promesse du général Al-Bourhan qui annonçait cette semaine au Soudan la reprise totale de Khartoum par l'armée. Il affirmait hier que la guerre face aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti ne s'arrêterait que lorsque ces derniers baisseraient les armes. Pour mémoire, en face, les FSR affirmaient également cette semaine qu'il n'y aura pas de reddition de leur part. Cette guerre au Soudan entrera le mois prochain dans sa troisième année. La lutte contre la résurgence du groupe État islamique en Somalie, avec de nouvelles frappes américaines menées dans la région semi-autonome du Puntland, annonce de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, qui affirme avoir tué de multiples combattants.
RFI à Kampala, 93.7 FM.
C'est souvent un symbole de la liberté de la presse, souvent les premières mises à mal, les caricatures incarnent pourtant un regard frais, différent sur l'actualité. Mais comment exercer ce métier lorsque l'on vit sous un régime particulièrement autoritaire? Comment vivaient les caricaturistes sous le régime d'Amin Dada en Ouganda par exemple dans les années 1970? Eh bien, Le cinéaste néerlandais Michel van Oosterhout nous donne justement à voir leurs conditions dans son film The Tongue Turns to the Hashing Tooth, un proverbe anglais signifiant que l'attention d'une personne est constamment attirée vers ce qui la trouble. C'est notre dossier ce matin, signé Florence Maurice.
Leurs dessins ont marqué la culture ougandaise, mais très peu connaissent leur nom et leur visage. Il a fallu plusieurs années à l'équipe du film pour retrouver les caricaturistes qui témoignent. Michel van Oosterhout, le réalisateur.
Ils avaient peur pour leur sécurité. Même les personnes qui travaillaient dans leurs journaux que j'ai rencontrés, aucun n'a pu me donner leur nom. On m'a expliqué qu'ils déposaient simplement leurs dessins dans une boîte, repartaient, personne ne les rencontrait.
Parmi ces témoins retrouvés, GGSS, le doyen des caricaturistes ougandais, 102 ans, il se souvient comment est née sa vocation.
Nous étions en train d'applaudir le Kabaka, le roi, en visite, et j'ai repéré trois hommes avec des carnets et une caméra qui ne s'étaient pas agenouillés. Ils m'ont dit qu'ils travaillaient dans la presse. Je me suis dit, ces gens sont libres, je veux faire comme eux.
Dans le documentaire, chacun témoigne sur sa relation au pouvoir et à la censure sous Emin Dada, entre terreur et chape de plomb.
On pouvait te tuer pour avoir parlé d'Idi Amin.
James Tumusime le sait bien, un de ses dessins lui a valu d'être traqué par les services de sécurité.
Sur le dessin, un homme entrait dans une boucherie et demandait une tête de cochon. Le vendeur répondait « Mais tu ne vois pas que je suis un humain, que je n'ai pas une tête de cochon ?» Or, la nuit précédente, le régime avait fait tuer l'archevêque et Amin était surnommé « le boucher ». Donc ses services lui ont dit « Dans ce dessin, il parle de toi ».
Recherché, James Tumusime s'est alors exilé avant de revenir en Ouganda pour continuer à dessiner.
J'ai arrêté de dessiner des cochons.
Florence Maurice, des caricatures qui sont aussi par ailleurs le reflet de leur époque. C'était un témoignage précieux sur la société, les mœurs, et notamment sur le statut des femmes. C'est ce que nous explique Florence Brisset-Foucault, chercheuse, maître de conférences, l'une des co-auteurs de ce documentaire.
On voit notamment beaucoup de personnages de prostituées ou d'épouses mécontentes ou de jeunes femmes qui s'habillent de manière provocante. Et ce que ça laisse transparaître, c'est la manière dont les comportements féminins étaient critiqués sous Idi Amin Dada, à la fois par l'État, mais aussi par la société, parce qu'il y a une des lois qui ont été passées par Idi Amin pendant la dictature qui est assez connue. C'était une loi qui interdisait, alors on dit souvent qu'il interdisait les mini-jupes. En fait, c'était pas seulement les mini-jupes qui étaient interdites, c'était aussi les mini-shorts, les pantalons moulants, les perruques, le maquillage trop ostentatoire. Et ce que l'on observe dans ces dessins, c'est que ces mesures étaient plutôt populaires, en fait, au sein de la société ougandaise, et que il y avait une forte critique sur des comportements des femmes, de femmes qui paraissaient trop libérées et trop provocateurs aux yeux de la société patriarcale en Ouganda à l'époque.
La chercheuse Florence Brisset-Foucault pour refermer notre dossier. Allez, on est maintenant à un mois de la CAN des moins de 20 ans de football. Elle est prévue à partir du 27 avril en Égypte, pays choisi après le désistement in extremis en début de semaine de l'organisateur initialement désigné, la Côte d'Ivoire. Un changement de programme donc qui bouscule aussi les plans de préparation des équipes à l'image de la RDC. Les jeunes léopards sortaient d'un stage au Sénégal censé les acclimater à la région, au grand dam de leur sélectionneur Guy Boukassa.
L'une des raisons pour lesquelles nous étions allés au Sénégal, c'est non seulement parce que c'est bien la nation tenante du titre de la catégorie, c'était aussi surtout pour se rapprocher du contexte de l'ancienne localisation. Le Sénégal, qui n'est pas loin de la Côte d'Ivoire, nous aurait donc permis de surtout d'emmener les jeunes qui évoluent en Europe, de s'accoutumer au contexte africain en termes de terrain, en termes d'environnement, de météo et autres. Mais là, avec ce changement de pays hôte, on va devoir réorienter notre préparation vers une nation similaire en termes de climat et de météo à l'Égypte, qui va nous accueillir.
Le sélectionneur des jeunes léopards, Guy Boukassa. La CAN des moins de 20 ans de football qui démarre donc, je vous le rappelle, le 27 avril en Égypte. Ce sera bien sûr à suivre sur RFI. Et si ce n'est pas sur l'antenne, eh bien, ce sera évidemment sur internet, RFI.fr et nos applications. Notre matinale continue avec Julien Coquel-Roem.